Christophe Basson est un ancien coureur cycliste professionnel. Il est maintenant très engagé dans la lutte antidopage. Vous allez le voir dans cet épisode, nous parlons du sujet du dopage et comment éviter à un sportif de passer par la case dopage. C'est un épisode que j'ai vraiment trouvé passionnant à enregistrer et qui m'a mis plusieurs claques. Vous allez le voir, cet épisode nous amène à réfléchir sur nos propres pratiques, notamment sur la consommation et l'utilisation des réseaux sociaux. S'il y a bien un épisode que vous devez partager avec votre entourage, c'est bien celui-ci, car il est vraiment d'enjeu de santé publique. J'ai vraiment été vraiment très honoré de recevoir Christophe dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor et j'espère que vous passerez un très bon moment, très bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Christophe Basson. Et alors Christophe, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était évidemment lors du Tour de France, évidemment. Ensuite, pendant une longue période, je n'ai plus entendu parler de toi parce que le cyclisme, c'est pas mon sport premier, mon sport de cœur. Et j'ai réentendu parler de toi dans un podcast avec Extraterrien. Et là, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je reçoive aussi Christophe dans un podcast. Comment vas-tu, Christophe ?
Ah, ben ça va, super. Ça va, tout va bien. Ouais.
Top. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Ouais, alors Christophe Basson, aujourd'hui 47 ans, j'ai été cycliste professionnel de 1996 à 2001. J'ai connu un peu ce cyclisme d'époque où le dopage était organisé. Bon bref, un système où il n'y avait pas que le dopage, d'ailleurs il y avait plein d'autres dérives à l'intérieur, mais c'est comme ça. C'était un monde à part, j'aurais tendance à dire. Et ensuite, suite à ça, mes prises de parole ont fait que j'ai dû stopper ma carrière vers les 27 ans parce que plus bien dans ce milieu, pas très bien, et pas accepté non plus, et donc rejeté. Du coup, j'ai arrêté en 2001. Je suis devenu professeur de sport pour le ministère chargé des sports. Et donc, j'ai été basé à Bordeaux. Et je suis basé depuis 2001, donc à Bordeaux, avec différentes missions que j'ai pu avoir depuis, qui passent notamment par la lutte contre le dopage, la lutte contre le trafic de produits dopants et la prévention de dopage. Et après, plein d'autres missions sur les sports de nature, sur le sport pro, etc. Et en parallèle, bien sûr, j'ai arrêté ma carrière de cycliste en 2001. J'ai fait le deuil du vélo, mais j'ai pas vraiment fait le deuil de l'effort. Et donc j'ai de suite basculé sur une épreuve et de trail que j'ai découvert et je me suis lancé dès 2001 un petit peu dans cette aventure jusqu'en 2010 où là j'ai eu un début de pubalgie. Du coup je me suis remis au VTT. J'ai l'impression de fonctionner avec des décennies mais bon je me suis remis au VTT en 2010 jusqu'en 2019 et là du coup je me suis remis au trail course de montagne depuis maintenant un peu plus de 2 ans parce que finalement je pense que c'est l'activité qui me plaît le plus.
Alors, dans toute ta présentation, là, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Déjà, le vélo, pourquoi est-ce que tu t'y es mis en étant jeune ? Est-ce que tu avais été poussé un petit peu par des parents également dans le vélo ou qu'est-ce qui t'avait attiré dans ce sport ?
Non, pas du tout par les parents, parce que j'avais des parents qui étaient pas du tout sportifs, mais vraiment pas du tout. Hein. Le seul truc que je voyais, c'est mon père qui regardait parfois la Coupe du Monde de foot. Mais sinon, vraiment, on est dans un milieu rural où voilà, c'était le boulot, c'était la campagne, tout ce côté-là. Donc, en fait, je suis venu au vélo et au VTT principalement. J'ai démarré par le VTT parce que moi, j'étais toujours dehors, en fait, aller dans les montagnes, marcher. C'est là où j'étais bien. Et arrivé un moment, j'avais fait un peu le tour de tout. J'ai trouvé au travers du VTT la possibilité d'aller plus loin, d'aller découvrir derrière les montagnes plutôt que juste les montagnes. Et donc, à l'âge, je sais plus, c'était peut-être 15-16 ans, j'ai eu mon premier VTT. Et là, ça a été très très rapide puisque j'ai commencé voilà à rouler avec certaines personnes qui me décelaient chez moi quelques capacités que j'avais sûrement développées sans le vouloir en faisant mes activités en montagne. Et après, ça a été très vite puisque je prends ma première licence à 17 ans et demi, j'étais junior 2.
Parce que c'est vrai que le vélo, notamment le vélo de route, enfin le VTT, c'est aussi ça rentre aussi dans ces cases-là de sport où il faut passer énormément de temps. Et du coup, tu peux pas en fait performer s'il n'y a pas la passion qui est là aussi. Qu'est-ce qui te plaisait ou qu'est-ce qui te plaît toujours ? J'imagine que tu roules toujours quand même un peu dans le vélo.
Mais ce qui me plaît, bah, déjà l'effort. C'est vrai que j'ai souvent ce plaisir de l'après, ou parfois, moi je le dis, hein, aujourd'hui je pratique, bah, je pratique quoi, je dois pratiquer entre 12 et 16 heures de sport par semaine, mais comme je le dis, ça surprend parfois les gens, mais ouais, je dirais que 8, 9 fois sur 10, j'ai pas envie d'y aller. Clairement, je le dis, je suis père de famille, j'ai plein de choses à côté, je suis occupé, je finis parfois les journées fatiguées, bon bref. Et pourtant, il y a cette grosse satisfaction après, finalement, de l'avoir fait. D'avoir fait des choses qu'au début on n'était pas prêt, mentalement c'est dur, et au final de passer au-delà de ces difficultés, et bien ça apporte une certaine fierté qui est quand même assez intéressante. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup, alors ça, et alors déjà la première chose qui m'a permis d'aimer le VTT, c'est bien sûr, comme je l'ai dit, c'est pour la possibilité d'aller découvrir des lieux que je ne connaissais pas, donc aller en pleine nature, être seul et être seul dans un environnement. Et ça, on le verra sûrement après, mais je crois vraiment à ce contact à la nature pour justement aller à l'encontre de différentes pratiques déviantes. Et ensuite, ce qui m'a plu également, c'est vraiment le besoin de toujours me dépasser, aller battre mes records personnels. Il faut savoir que j'étais pas licencié à 16-17 ans, mais j'avais mes propres records dans le coin. Et à chaque fois, mon objectif, c'était aller battre mon record, mon propre record. Et alors que plein d'autres ne l'avaient pas, j'étais le seul à avoir mon record à moi, quoi. Donc je me battais contre moi-même et c'était vraiment ce qui m'attirait le plus, hein, où il y a ce côté où on pouvait chronométrer, on pouvait évaluer notre propre progression, en fait.
Parce que tu as toujours eu ce côté compétiteur?
Compétiteur contre moi-même, en fait. C'est un peu ça, je dirais, parce que vous savez, tu sais, par exemple, je prends l'exemple d'Albert Jacquard, je sais pas si ça te parle, possible, sûrement même, je dirais. Et en fait, où il parlait, on l'a souvent dit qu'il était contre la compétition, mais Albert Jacquard n'est pas vraiment contre la compétition. Ce qu'il dit, c'est que qu'est-ce qu'on cherche à travers la compétition? Donc oui, je peux être considéré comme un compétiteur si on considère que moi, je vais utiliser l'adversaire pour dépasser mes propres limites. Et c'est exactement ce que définit Albert Jacquard. Après, de là, aimer la compétition pour aller battre l'autre, ça c'est clair, je ne le suis pas. Je ne suis pas, ce qui m'a d'ailleurs fait défaut ensuite au plus haut niveau, puisque peut-être que j'aurais eu cette obsession de battre l'autre, fait défaut au contraire qui m'a sauvé, je dirais, et bien peut-être que j'aurais fait des choix qui n'ont pas été ce que j'ai fait, en fait. Ça veut dire que non, ma motivation, elle a toujours été, j'aime la compétition parce que ça me permet, eh bien, d'avoir une difficulté supplémentaire qui va te permettre d'aller chercher des niveaux d'intensité, des niveaux, des performances que tu n'irais pas chercher peut-être tout seul. Donc ça, c'est bien, ouais. Se servir de l'autre pour aller au-delà de ses limites.
Je suis très content de t'entendre dire ça parce que c'est presque mot pour mot quelque chose que j'ai dit dans un autre podcast ou que j'ai enregistré hier, donc qui n'est pas encore diffusé à l'heure où nous on enregistre. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect de la compétition qui est un petit peu, alors je ne sais pas si c'est français ou si c'est culturel, enfin si c'est culturel ou si c'est pareil dans tous les pays. Ou être compétiteur, il y a un côté négatif. On voit ça un peu comme quelqu'un qui veut bouffer les autres. Alors que si on est compétiteur, mais qu'on se sert des autres justement pour aller dépasser ses propres performances, bah, finalement, ça a un côté bénéfique. Et on peut transposer ça dans le milieu de l'entreprise. Si un entrepreneur se sert des connaissances, des capacités des autres entrepreneurs pour progresser lui-même et du coup arriver à faire en sorte que son client soit de plus en plus satisfait, bah tout le monde est content, tout le monde est gagnant dans ce système-là, dans ce cheminement-là.
Bien sûr, parce que ça permet d'aller chercher sa propre excellence. Et ça, je le compare souvent. Alors, c'est pas que ça me, mais souvent, ça me fait pas mal sourire. Et autant, voilà, être cash avec tout ça. C'est quand je vois dans certaines disciplines, on est pas mal concerné, notamment dans le VTT, également dans le cyclisme, tout ça, où t'as quasiment, en fait, aujourd'hui, maintenant, deux fédérations qui se confrontent, voire plusieurs. Mais chez nous, notamment dans le Grand Sud-Ouest, tu as d'un côté la Fédération Française de Cyclisme et de l'autre côté l'UFOLEP. Et je vois aujourd'hui encore des jeunes à l'âge de 16, 17, 18 ans qui font le choix de, finalement, de basculer de la fédération à l'UFOLEP. Pourquoi faire? Pour aller gagner des titres régionaux, des titres nationaux UFOLEP, plutôt qu'aller essayer d'aller se confronter au meilleur niveau régional FFC. Au final, ces jeunes, et bien, je les vois devenir champion départemental, champion régional, voire champion national, avec finalement une certaine facilité. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, je veux dire, le plus grand des sportifs de haut niveau, celui qui réussira et qui ira chercher les plus grosses médailles, sera celui qui cherche l'adversité, et pas celui qui va aller l'endroit où il peut récupérer une médaille. Et là encore, une autre exemple encore qui m'interpelle, c'est la multiplication des catégories. Pourquoi aujourd'hui on fait des catégories de 30, 35, 40, 45? C'est pour que chacun puisse aller chercher, a plus de chances d'aller chercher une médaille ou d'aller chercher un titre. Et ça, pour moi, personnellement, ça me pose un petit problème. Un petit problème parce qu'on amène les gens à être motivés par une victoire plutôt qu'à par un dépassement ou aller chercher sur leur propre excellence. Et pour moi, on commence à basculer dans ce qu'on appelle une motivation extrinsèque plutôt qu'intrinsèque, où il faut battre l'autre pour finalement exister. Mais après, ça correspond également à toute la manière de médiatiser ce sport. Parce que le jeune qui va chercher un titre régional à l'UFOLEP, qui n'a peut-être pas, qui n'aurait même pas la possibilité d'être dans les 30 premiers à l'FFC, va avoir finalement son article dans le journal, parce que finalement, le journaliste ne fait pas la différence entre l'UFOLEP et l'FFC.
Mais ça, c'est aussi un problème qui a été, je pense, amené avec l'essor des réseaux sociaux et où les athlètes élites sont obligés d'exister sur les réseaux sociaux pour être vus par les sponsors et donc pouvoir vivre de leur activité et continuer, en fait, parce que si tu performes pas, que tu n'existes pas sur les réseaux, ton sponsor ne te suit plus et tu es obligé d'en arriver là, en fait. Enfin, c'est quoi l'alternative?
Mais l'alternative, moi, j'ai souvent responsabilisé les médias, où finalement, je pense qu'il faut déjà essayer de valoriser les valeurs plutôt que valoriser la victoire à tout prix. Mais et je pense que ça a un réel intérêt. Moi, je te prends l'exemple aujourd'hui de, par exemple, quelqu'un comme Kylian Jornet, ou même François Daen. C'est quand même des grands coureurs, qui ont gagné d'énormes courses, et c'est des références au niveau mondial. Mais quelqu'un comme Kylian Jornet a quasiment aujourd'hui arrêté la compète, il en fait une de temps en temps. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir un poids énorme dessus, juste de la manière dont il pratique. Je veux dire, combien de personnes vont voir ses vidéos lorsqu'il est sur les crêtes enneigées, lorsqu'il fait des efforts même violents comme son dernier kilomètre vertical, c'est pas du tout une compète. Pourtant, c'est des choses où là-dessus, il arrive, parce qu'il incarne des valeurs qui plaisent aux gens et dans lesquelles il se retrouve. Et je dis qu'aujourd'hui, on est capable, on peut valoriser le sport, on peut le vendre, on peut attirer des sponsors en ayant des valeurs et en vendant ce que les gens ont envie de vivre. Et je suis pas certain qu'aujourd'hui, les gens, ils aient vraiment envie de vivre des victoires. Ils ont envie de vivre de la satisfaction, de la fierté, de l'épanouissement, plein de choses comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les médias devraient apprendre justement à médiatiser tout ça pour faire une bascule à un moment donné, c'est-à-dire que les partenaires, les sponsors n'iront plus, et donc l'argent n'ira peut-être plus vers ceux qui gagnent, mais vers ceux qui portent des valeurs. Alors, je dis pas que c'est une question d'argent, mais pourquoi je parle de cet aspect-là? Parce que finalement, c'est ces personnes-là qui voient des exemples pour les jeunes et qui vont les influencer dans leur mentalité. Et donc, c'est tout un système, un cercle fermé qui fait que comment on peut sortir d'un système qui est quand même très très basé sur l'économie, il faut le reconnaître, parce qu'on vend quoi et qu'est-ce qu'il fait derrière et qu'est-ce qu'il fait les marques, qu'est-ce qu'il fait le développement et qu'est-ce qu'il fait envie, ben c'est finalement celui qui est médiatisé. Donc il y a de grandes réflexions à avoir là-dessus, mais je crois quand même aujourd'hui avec l'évolution des générations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit que avant nous on était une génération où on cherchait du plaisir à long terme. Donc on réfléchissait relativement à long terme. Aujourd'hui, les nouvelles générations réfléchissent beaucoup plus à court terme et veulent du plaisir immédiat. Et on voit aujourd'hui des personnes qui sont capables d'aller faire un métier qui leur plaît, parce que c'est l'environnement qu'ils recherchent, etc. Ils sont pas du tout dans s'assurer quelque chose pour 20, 30 ans, 40 ans, ou grandir une famille, créer une famille. Et ça, je crois que ça peut apporter d'énormes changements sur ces mentalités, sur la manière que pourrait être médiatisé le sport. Et déjà, je trouve qu'il est déjà médiatisé différemment aujourd'hui qu'avant. Mais c'est vrai que, comme tu dis, les réseaux sociaux développent énormément le paraître par rapport au être, au savoir-être, qui, à mon avis, est l'essentiel. Mais bon, c'est la grande difficulté là-dessus, mais je pense qu'à un moment donné, il y aura un retour d'élastique qui va faire comprendre qu'il faut d'abord vivre le moment présent, vivre nos instants, parfois se les garder pour soi, parce qu'il y a des risques de les partager, pour pouvoir finalement s'épanouir.
C'est hyper intéressant, parce que tu vois, là, j'étais il y a quelques semaines en train d'enregistrer un épisode avec Beniat Marmisol. Je sais pas si tu le connais, c'est un trailer.
Ah oui, je connais bien. Enfin, je connais bien. Je le connais pour le suivre en termes de résultats.
Vous avez presque le même accent.
il est masqué. Moi, je suis du Tarn, mais bon.
Ah, je veux pas vous fâcher.
Non, mais tu me fâches pas.
et c'est vrai qu'on parlait de cet aspect-là de présence sur les médias, les réseaux sociaux, etc. Parce que lui, il est quand même incroyable. Enfin, il a un niveau. Il est fini troisième sur la Diagonale 2021. Enfin, voilà, c'est un niveau quand même assez hallucinant. Et justement, il n'avait pas de sponsor. Alors aujourd'hui, c'est chose faite parce qu'il y a ASICS qui l'accompagne. mais on parlait justement de tous ces sujets-là, de justement de, d'enchaîner les courses pour être vu. De, et lui aussi, il est aussi assez cash sur les sujets comme le dopage, etc. Que finalement, ça existe dans tous les milieux et le trail n'en est pas exclu pour, et justement pour amener cette visibilité-là, parce que les athlètes qui veulent enchaîner toutes les courses, et bah, au bout d'un moment, il y a cette tentation-là qui est là aussi. Et mais comment est-ce que toi sur quel levier tu communiques ou quel levier tu actionnes psychologique chez quelqu'un que tu voudrais par exemple convaincre de ne pas tomber là-dedans?
Ouf, alors là c'est vrai que suite à mes affaires et toute la réflexion que j'ai pu mener finalement depuis 2001, c'est vrai que moi quand on s'est rendu compte que j'avais kiffé Sina, j'étais le seul coureur sur le 28 à prendre aucun produit. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes, donc des psys, etc., qui ont cherché à comprendre pourquoi moi, sur les 28, je l'ai pas fait. Clairement, des réponses précises, il y en a pas. Si ce n'est qu'il y en a une que j'aurais tendance à dire aujourd'hui, pour que personne d'autre se dope, il faudrait que tout le monde soit heureux. Mais ça, malheureusement, ça va pas être possible. Parce qu'il faut voir à travers le dopage une solution pour essayer d'aller chercher son bonheur. Le bonheur tel que nous, on le conçoit. Et on n'a pas tous le même objectif là-dessus. Parce que, voilà, le dopage est une solution à un problème. C'est-à-dire qu'il faut voir une personne qui se dope, une personne qui a un problème, ça peut être un problème d'estime, un problème d'argent, un problème de reconnaissance, un problème quelconque, qui fait qu'il va trouver dans le dopage sa solution. Alors comment on va faire pour éviter que finalement il ait envie de le faire? Parce que dans la prévention, il y a quatre niveaux, il y a la primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, et clairement ce qui nous concerne, nous, c'est les trois premières. La primaire, c'est éviter que la personne ait envie de se doper, la secondaire, il a envie, on va éviter qu'il fasse, et la tertiaire, il a déjà fait une fois, on va éviter qu'il le refasse. Moi, sur laquelle je travaille beaucoup, c'est sur la primaire, notamment. Comment on va éviter que la personne ait envie, à un moment donné, d'entrer dans une conduite dopante. Je parle même pas de dopage. Et la conduite dopante, c'est la prise d'une substance à des fins de performance pour surmonter un obstacle, qui soit réel ou imaginé. Ça veut dire que, clairement, et c'est même pas, on cherche pas à savoir si le produit est interdit ou autorisé. On cherche juste à essayer d'influencer cette manière de penser, cette manière d'agir, et éviter qu'on mette un lien de causalité ou d'effet entre le produit et la performance. Et là, il y a différents, moi j'ai réussi, depuis des années, j'ai identifié un certain nombre de facteurs de réussite qui permettent justement, alors au début je partais de facteurs de risque, bien sûr, les facteurs qui influençaient, poussaient à aller dans le dopage ou la conduite dopante. Mais finalement, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas ça. Le but, c'est comment on va accompagner des jeunes pour qu'ils arrivent à réussir leur vie. Et quand je dis réussir leur vie, il y a déjà une des premières choses qui est essentielle, c'est la liberté. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on nous dit qu'on nous enlève la liberté. Mais malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui conservent leur liberté et qui, de par de petits actes, qui sont peut-être bénins, qui leur paraissent pas importants, font qu'ils se mettent dans une situation, ils sont prisonniers d'une société, ils sont prisonniers d'un système, parce qu'à un moment donné, ils ont peut-être fait des choses qu'ils n'ont pas été capables d'assumer, ou parce qu'ils ont fait des choses qui étaient contre leurs valeurs. Et c'est pour ça que là, j'ai différents facteurs que j'ai identifiés, que sur lesquels je discute avec mes différents interlocuteurs, en fait, publics.
Mais c'est ultra compliqué quand même pour un jeune de 16, 17 ans qui commence à performer, qui arrive dans une équipe, et puis qui voit tous ceux qui ont peut-être 19, 20 ans déjà prendre certains produits pour augmenter leur performance. Que c'est ces gens-là qu'il adule, qu'il a envie d'être comme eux, comment ne pas tomber là-dedans, en fait, enfin, je me mets à sa place de ce jeune-là, ou moins jeune d'ailleurs. L'empathie, en fait, pour cette personne, tu vois.
Non, mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure en termes de motivation. Si tu pars dans une idée où tu as l'adversité, tu vas retrouver avec moi dans laquelle je me suis trouvé. Je me suis trouvé dans une situation où, clairement, je le dis, on me l'a toujours dit, et c'est pour ça que je me gêne pas de le dire, d'aller qu'à Festina, c'est moi qui avais les meilleurs tests physiques. Durant les hivers, j'étais capable de monter les cols pour Richard Virenque, et j'avais les meilleurs tests sur chrono, en puissance, etc. Or, j'arrivais au mois de mars-avril, et ben j'étais dans les 4-5 derniers de l'équipe. Et je me battais pour rester dans le peloton la plupart du temps. Mais finalement, qu'est-ce que je cherchais là-dedans? Moi, c'est qu'à travers le fait que je savais que les autres étaient dopés, je savais tout ça, mais je cherchais de la diversité. Et je savais que moi, parce que j'allais me battre contre ces mecs-là, qui habituellement, si on avait été tous à la même hauteur, on aurait été tous au même niveau, ils m'auraient peut-être pas beaucoup apporté en diversité. C'est un grand mot de dire ça. Mais ça veut dire que la diversité aurait été moins importante. Ça m'aurait moins permis peut-être d'aller au-delà de mes limites et aussi bien mentalement que physiquement. Parce que quand vous êtes dans une situation comme ça, où vous êtes face à vous des gens qui utilisent des choses que vous, vous refusez d'utiliser, parce qu'en plus c'est interdit par la loi, du coup vous forgez le caractère, et c'est vous qui devenez finalement le plus heureux. C'est toi qui deviens le plus heureux, parce que déjà toi tu sais des secrets que eux ne veulent surtout pas dire, donc c'est toi qui as la connaissance de tout. Et tu sais finalement que peut-être celui qui peut se regarder dans une glace, c'est toi. Et en même temps, quand je prends l'exemple du fameux championnat de France où je fais troisième, où finalement on est la même équipe Festina, on fait 1, 2, 3, et les deux premiers sur le podium sont mes deux collègues de l'équipe Festina, et une heure avant le départ de la course, même pas demi-heure avant, on se changeait avant le départ et on partait tout en espace de 3 minutes tous les trois. Et puis là, je les vois en train de s'injecter ce qu'il fallait pour être performant sur la compétition. Alors que je savais qu'à côté, bien sûr, ils avaient tout ce qui était EPO, hormone croissante, testostérone, tout ce qu'il fallait pour avancer. Bien plus que ce que la nature leur permettait. Et là, au final, on se retrouve tous les trois sur le podium et moi troisième. Et je descends du podium et un journaliste qui vient me voir, il me dit, waouh, je suis impressionné, en fait. C'est toi qui es troisième, c'est toi le plus heureux. Et ouais, c'était moi le plus heureux, en fait. Et pendant toute la durée de la Marseillaise, je les ai regardés, ils m'ont jamais regardé. Ils ont jamais été capables de croiser mon regard. Et là, je dis, ouais, aux yeux des gens, qui était le plus heureux? Peut-être celui qui avait le maillot bleu, blanc, rouge. Ou éventuellement le second, mais c'était surtout pas le troisième. Et encore moins le quatrième, qui était même pas sur le podium. Et pourtant, je pense que sur le podium, le plus heureux, c'est moi, en fait. Parce que moi, j'étais vraiment je ressentais tout, je vivais tout à 100%, j'étais dans l'être, et j'étais surtout pas dans le paraître, qui était totalement faussé, de par toutes ces différentes tricheries. Et je crois que le bonheur, pour moi, il est là. Et c'est là-dessus qu'il faut le chercher, donc à travers l'adversité qui va te permettre d'aller chercher ton excellence et au final, aller chercher ce qu'on appelle la vraie bonne estime de soi. La fausse bonne estime de soi, c'est quand tu as besoin de te comparer aux autres pour exister, te dire que tu es une belle personne. Ça, c'est des gens que je vois au boulot, des fois le matin, qui vont aller critiquer son voisin en disant que lui, il arrive en retard pour justifier que lui travaille bien. Ça m'intéresse pas, en fait. Par contre, la vraie bonne estime de soi, c'est quand tu te regardes le soir, tu as fini ta journée, tu te brosses les dents et tu te dis, waouh, j'ai fait quoi de mes journées? Est-ce que finalement j'ai rendu des gens heureux aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait des belles choses dont je suis fier? Et c'est ça qu'il faut aider les jeunes à rechercher, et à différentes manières de faire, d'agir dans la vie, de mener sa vie, qu'on arrive petit à petit à aller vers ça, plutôt que ce fameux paraître qui est fortement influencé par les réseaux sociaux et tous les médias.
En fait, si on reprend la pyramide de Maslow, tu as quand même ce besoin d'appartenance qui est l'une des étapes, donc être intégré dans un groupe. Le besoin d'estime, ça va être donc juste au-dessus avec le regard des autres, mais si on va tout en haut, c'est le besoin de s'accomplir. Ouais. Et toi, finalement, tu es dans tout en haut et tu n'as du coup les étages d'en dessous, tu les vois différemment. En fait, c'est pas que t'en as pas besoin, mais si tu les vois différemment.
Ouais, mais tu sais, cette pyramide, moi je la mettrais en cercle, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, que si toi t'es pas bien avec toi-même et t'es pas épanoui, tu ne peux pas être bienveillant et t'occuper des autres et être dans le respect des autres. Ça, on le sait aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il faut réussir à atteindre ce côté-là où on arrive à s'épanouir intérieurement pour pouvoir ensuite être dans une approche beaucoup plus bienveillante et de vivre ensemble qui va te permettre d'être d'une part dans le respect, mais pas simplement être dans l'intérêt personnel, mais surtout être dans l'intérêt général. Moi, à l'époque, quand j'ai agi et que j'ai dit tout ce que j'ai dit, je savais clairement que je foutais ma carrière en l'air. Je savais que j'allais compter les jours de ma carrière. Mais je le faisais dans un certain intérêt. Et quand tu parles d'appartenance de groupe, je le dis souvent. Quand j'interviens auprès des jeunes, la question du cannabis est exactement la même. Aujourd'hui, pourquoi des jeunes viennent à utiliser le cannabis? Est-ce que c'est parce que pour tester ce que fait le cannabis et vivre ce que apporte le cannabis? Ou c'est juste parce qu'à un moment donné, dans un groupe, eh bien, on fume le cannabis et parce que le jeune a envie d'appartenir à ce groupe, il va faire la même chose pour pas être exclu de ce groupe. Donc, pourquoi les rugbyman aujourd'hui à leur troisième mi-temps? Est-ce que c'est parce que d'être rugbyman, on aime boire? Ou est-ce que parce que on aime boire, on aime le rugby? Il y a réellement un lien là-dessus. C'est que tu, soi-disant, sur le principe du collectif, etc., il va falloir qu'on implique des choses à côté pour pouvoir faire partie de l'équipe. C'est quand même incroyable, ça. C'est donc, moi, ce que je dis aux jeunes, c'est qu'il faut réussir à exister à travers ce que l'on est. Et c'est la différence, le fait qu'on existe. on est tous différents. Et si on veut avancer dans nos réflexions, il faut confronter la plupart des temps des avis qui sont différents. Je veux dire, parfois, on se fait plaisir, des fois, à discuter entre personnes qui avons le même avis. Mais parfois, c'est super intéressant de discuter avec qui on n'est pas d'accord. Donc, il faut pas avoir cette crainte de pas être d'accord. On peut parfaitement aimer une personne sans pour autant être d'accord sur tout ce qu'elle dit. Donc, c'est vraiment cette diversité des personnes qu'il faut accepter. Il faut pas automatiquement vouloir appartenir à un groupe pour exister, mais justement vouloir apporter quelque chose à ce groupe. Et c'est en apportant sa différence qu'on fait évoluer le groupe.
Mais c'est extrêmement difficile quand on a déjà peut-être à l'origine dans l'éducation un manque de confiance en soi, etc. Et puis si en plus on doit se mettre tout un groupe qu'on a idéalisé, si on doit se le mettre à dos, faut être solide. Hein.
Ouais, mais il faut être solide. Mais c'est pour ça, c'est évident. Aujourd'hui, on a une société, on a une éducation qui est faite comme elle est. Elle évolue peut-être, mais on a beau dire. Mais aujourd'hui, comme je pense que j'en avais déjà discuté aussi, je crois, sur l'autre podcast, mais la question de l'éducation aujourd'hui, tu rentres à l'école à l'âge de 5-6 ans, et puis tu es derrière un bureau et tu écoutes tout ce que dit ton instituteur, ton professeur. Et il faudrait qu'à l'âge de 17-18 ans, tu sors de l'école à 16 ans ou plus tôt, et même sûrement plus tard, il faudrait que quand tu es confronté à un milieu où il y a des choses qui se font, où il y a des exemples pour toi, peut-être des dont tu es fan, tes idoles, qui vont venir te dire quelque chose, qu'il faudrait que tu sois capable de dire non. De dire non, moi je veux pas être comme toi. C'est super compliqué, la capacité à dire non. On appelle ça les compétences psychosociales. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire non à une chose? Parce que c'est là dessus. Rien que de par ma question, j'apporte déjà une réponse. Quand on dit non à une question, on dit non à ce que nous demande la personne. On ne dit pas non à la personne. Et ça, il faut pas avoir peur de dire non et de s'opposer. C'est pas parce que je dis non à quelque chose que me propose une personne que je suis contre elle. Je suis juste pas d'accord sur ce qu'elle dit. C'est pas pour ça que ça m'empêchera d'apprécier cette personne et voire de l'aimer. Donc, c'est ça, il faut réussir à l'inculquer, il faut réussir à l'apporter. Et c'est par une éducation où on arrivera à respecter le rythme de chacun, à respecter le vivre ensemble, à prendre en considération qu'un jeune, même à partir de l'âge de 5-6 ans, est une personne qui pense, qui réfléchit, qui a des sentiments et qui a aussi des choses à dire et qu'il a le droit de les dire, qu'on arrivera à développer cet aspect critique de ces personnes. Donc ça, je pense que c'est important en termes d'éducation. Et là, il faut pas non plus mettre le dos sur le système éducatif de notre société, de notre pays, mais il faut aussi mettre en place le rôle des gens. Quand tu vois qu'aujourd'hui, dans une société, moi aujourd'hui, j'appelle ça une société revendicatrice. C'est sûr que des fois, il est important de manifester pour des choses importantes, très importantes. Par contre, aujourd'hui, manifester pour un moindre point qui nous dérange à nous personnellement, moi je trouve que ça pose réellement problème. Parce que là, tu développes vraiment ce qu'on appelle des états d'esprit fixes. Alors ça, c'est Carol Dweck, une sociologue, qui l'a démontré, où clairement, il y a deux états d'esprit. Il y a les états d'esprit fixes et les états d'esprit de développement. Les états d'esprit fixes, c'est-à-dire ils sont face à une montagne, ils vont demander la solution. Qu'est-ce que vous me donnez pour y arriver? L'état d'esprit de développement, il va chercher sa solution. Il va l'atteindre. Ou il ne va pas l'atteindre, l'objectif. Mais s'il ne l'a pas atteint, et s'il échoue à 10 mètres du haut, eh bien au moins, ce sera un échec. Mais il aura beaucoup appris dans cet échec. Et c'est ça l'état d'esprit de développement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher, il ne faut pas toujours pleurer la solution à tout le monde. Pour certains, c'est vrai, il faut les aider, et ça, il ne faut pas qu'on interprète ce que je peux dire. Mais par contre, il faut éduquer nos jeunes à trouver leurs propres solutions plutôt que les demander par la manifestation, la revendication, et de dire qu'on est prisonnier. Mais est-ce qu'on fait quelque chose pour rester libre là-dessus? Et là, justement, juste peut-être parler de facteurs de réussite, et dans ces facteurs de réussite, notamment, il y a ce qu'on appelle, que j'ai identifié comme la diversification des activités. Moi, aujourd'hui, j'ai un boulot que j'adore. J'ai un boulot, je suis bien payé, ou je fais des choses que j'adore. Ça n'empêche pas qu'à côté, j'ai trois autres activités professionnelles. Ou si un jour, je suis pas bien dans ce boulot, j'ai besoin d'arrêter, ou qu'on me demande de faire quelque chose avec quoi je suis pas d'accord, eh bien, j'aurai autre chose pour rebondir. Et là, je pourrais dire, non, je suis pas d'accord, je m'en vais. Ou si vous voulez, vous me virez.
Ah, c'est ultra intéressant tous ces sujets de cette capacité à rebondir et ne pas enfin attendre que la réponse vienne des autres systématiquement et d'avoir un vrai impact sur. C'est marrant parce que j'en discutais ce matin avec l'institutrice de mon fils à l'école parce qu'il y a un moment de grève jeudi et on en discutait justement de cet impact de la grève sur et puis est-ce que ça avait vraiment du sens de faire un mouvement de grève pour emmerder une fois de plus les parents, même s'il y avait des choses à modifier, à corriger, enfin voilà.
Ouais, mais en parallèle, ça diminue énormément l'estime de soi de ces personnes, parce que finalement, tu pleures la solution aux autres. Ça peut être choquant ce que je dis, mais indirectement, psychologiquement, ça a un impact énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de nombreuses personnes qui sont à la merci des décisions gouvernementales. Qui sont à la merci des décisions gouvernementales. Ça pose problème. Ça pose problème. Alors que quelqu'un qui a un état d'esprit de développement, il se dit, bon, quelle est la situation? Elle est celle-là. Comment, moi, je vais trouver ma place dans ce système? Ça, je l'ai très bien compris. Pourquoi? Moi, quand j'ai voulu me battre contre ce milieu, je me suis élevé, clairement, je le dis, j'ai voulu changer le système. Or, j'ai bien appris depuis qu'un système, on ne le change pas. On trouve sa place dans le système. On influence le système et notamment les personnes qui vont entrer dans ce système pour petit à petit influencer le système. C'est-à-dire que moi, le système que parfois on aurait voulu avoir tendance à changer, non. Il faut travailler auprès des jeunes qui vont arriver avec leurs idées qui petit à petit vont l'influencer. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas en revendiquant, en voulant imposer, en voulant demander des choses qu'on en arrive de là parce que finalement, ça crée des distances, ça crée des différences entre les gens, ça crée des tensions et on n'arrive pas du tout à ce que l'on veut. Et il faut une fois de plus, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, s'il y a des tensions entre la population, c'est à cause d'eux. Non, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau? Moi, combien de fois j'entends critiquer le système de la lutte contre le dopage, de la FLD, il n'y a pas assez de contrôle chez les amateurs, il n'y a pas assez de contrôle là, il n'y a pas assez de sanctions, les sanctions sont pas assez importantes, etc. Et en contrepartie, je leur dis, une fois, je leur annonce, mais voilà, lui, il a été contrôlé positif, suspendu 2 ans. Ah, enfin! Parce que tout le monde le savait. Ah ben là, tu leur dis, bon, d'accord, vous critiquez le système qu'on va pas à tel endroit, vous savez, vous êtes persuadé que celui-là fait ce dope et vous nous en informez pas, vous jouez pas votre rôle de citoyen. Il n'y a pas réellement de problème. Donc, avant de critiquer ce que font les autres, avant de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce que moi, je suis capable de faire. Et moi, aujourd'hui, j'en suis à ce point-là. Moi, je cherche plus à savoir. Je fais en fonction des décisions qui sont faites et je m'adapte en fonction des décisions. Et moi, je me dis, tous les ans, voilà le système, voilà le dispositif, j'ai tels outils, j'ai telle chose, qu'est-ce que je fais? Et c'est pareil dans ma vie, c'est pareil dans le sport, c'est pareil avec mes plannings, mes emplois du temps, avec les enfants, avec la famille, c'est la même chose. On s'adapte.
Il y a peut-être aussi une histoire de la France avec la délation qui reste peut-être un peu ancrée et où les gens vont se dire si je vais aller le dire que lui se dope, je deviens une balance et ils ont peur de l'impact que ça peut avoir sur eux, sur je sais pas, c'est je réfléchis.
Ouais, mais parce qu'ils se forment un monde. Ils se forment un monde de cet acte-là. C'est pas de la délation, c'est la dénonciation. Et en quoi il y a du mal de dénoncer? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un citoyen, enfin, une personne en France a tendance à vouloir mettre une hiérarchie aux infractions et aux délits. On n'a pas à mettre de hiérarchie parce que la hiérarchie, on va la mettre en fonction de notre vie, en fonction de nos ressentis, en fonction de nos sentiments. Aujourd'hui, moi, c'est clair. Quelqu'un qui dope un jeune, c'est sanctionné pénalement. Quelqu'un qui viole, c'est sanctionné pénalement. Je n'ai pas jugé de la gravité de ces actes, même si je peux, au fond de moi, je les juge bien évidemment. Mais je n'ai pas à le juger. C'est un délit. On est contre la loi. On est hors la loi. Donc qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'irai dénoncer quelqu'un qui viole et j'irai pas dénoncer celui qui dope un jeune? Parce que moi, je vous le fais vite. Je vous prends un exemple. Dopage. Certains, ils ont un doute sur rien qui dope un autre ou qui influence. Ils y mettent pas d'importance. Il y a 3 ans, j'ai une mère qui m'appelle, elle m'appelle en pleurs et me dit, j'en peux plus, je sais plus quoi faire, mon fils, il a sa 3e tentative de suicide. Moi, j'y réponds, je dis, désolé madame, je peux pas vous répondre, je vais vous orienter vers une psy, je l'oriente vers une psy, et le gamin est pris en charge. Par contre, ça m'interpelle. Et suite à ça, je prends le cas clinique. Je vous fais le cas clinique rapidement. Ce gamin, il avait 15 ans et demi, il adorait le sport, c'est un hyperactif. Il faisait un sport de combat, il arrive dans une salle, le sport de combat, à côté, ils font du crossfit. Rapidement, le crossfit lui plaît parce qu'il adore se dépenser. Vous voyez, les gens qui se dépouillent, ça lui plaît. Il en arrive à 3-4 séances par semaine et commence à prendre un peu de masse et à se plaire à faire cette activité. Le niveau scolaire faisant, il est obligé de se déplacer, aller dans une grande ville. Il arrive dans un appartement avec son copain. Avant, il était plutôt chez ses parents. Et il arrive là, il trouve une salle pour pratiquer. Et là, rapidement, le gamin, il pousse de la fonte et rapidement, il y a trois mecs qui viennent le voir, ou deux, je ne sais plus, des gros bras, vous savez, ces gros bras qui sont dans les salles, qui poussent de la fonte, à crier, à transpirer, qui se regardent le trois quarts du temps dans un miroir, juste pour un jour espérer s'aimer. Et ces gens, ils vont le voir et lui dire, tu sais, gamin, qu'est-ce que tu veux, quel est ton objectif? Et le gamin, il dit, ben, j'aimerais quand même prendre 10 kilos, ben, écoute, fais ça, 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 ça. Rapidement, le gamin, il hésite, il réfléchit tout seul dans le soir, il arrive à l'appart, son copain n'est pas là. Il va sur Internet, la Darknet, et commande ceux qui ont recommandé ces trois personnes. Et ces trois personnes l'ont fait gentiment, parce qu'ils voyaient ce gamin qui se dépouillait depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, et ils savaient, eux, au fond d'eux, qu'ils n'évolueraient pas tant que ça. Donc, ils ont voulu l'aider, parce qu'ils n'ont rien gagné là-dessus. Le gamin, il commande, il fait une cure de 2 mois et demi. Au bout de 2 mois et demi, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il arrête sa cure, plus de libido, ça, plus d'érection. Rien du tout, il se pose plein de questions, il commence à s'affoler. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une nouvelle cure. Il fait une nouvelle cure pendant 10 mois, et quand il arrête, ça, c'est la totale. Plus d'érection, plus de libido, les seins qui poussent, de l'acné partout. Et sa phrase, et je te donne clairement sa phrase, c'est pas moi qui l'a dit. Il dit, je suis qu'une mauviette. Je ne suis plus rien. Et le gamin, il commence à suicider. Et là, on est à 1 an et demi. Après le moment où il a commencé à découvrir le crossfit, juste parce que le gamin adorait le sport. Et pourquoi il en est arrivé là? C'est pas parce qu'il adorait le sport, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une personne qui est juste venue le conseiller, qui est lui convaincu de ce qu'il disait. Et c'est en aucun cas pour gagner de l'argent. Mais au final, parce que celui est allé lui dire là, le gamin, il a fait 3 tentatives de suicide. Et bien ça, quand on me dit, les gens, oui, ben on savait, et bien je peux vous dire que moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que toi, tu te bats tout le temps, tu prends des risques, tu fais appliquer la loi, tu t'investis, parfois, souvent, longtemps, le soir, tu vas faire des piges, aller des surveillances au bord des salles, etc. Et au final, tu te bats peut-être pendant 3 ans pour les faire tomber des gens, mais pendant 3 ans, ben, il y a eu du dégât. Et tout simplement parce que des gens savaient, n'ont rien dit, et ben, ces gamins, on les a pas sauvés. Et là, je vais juste dire, arrêtons de hiérarchiser les infractions, et arrêtons de penser aussi que parce qu'on va dénoncer quelque chose, il va automatiquement y avoir tout le dispositif judiciaire derrière qui va se mettre en place. C'est faux. Moi, dans le cas de mon métier aujourd'hui, donc je suis prof de sport et aussi avec des compétences de police judiciaire. J'ai prêté serment, je travaille à procureur, police, gendarmerie, douane, etc. pour soulever tous ces trafics de produits dopants. Je dis juste aujourd'hui, vous avez une info, donnez-la. Nous, on est là derrière pour la confirmer, l'infirmer et faire. Et peut-être que votre info va se recouper avec une autre. Mais c'est important qu'on la connaisse. C'est important parce que grâce à ça que peut-être on ira chercher des mecs et que c'est comme ça qu'on va sauver des jeunes. C'est juste ça. Il faut arrêter de mettre trop d'importance à la dénonciation. Je dis juste, on a une information, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je la donne à une personne qui saura s'en servir. C'est tout. Et en bonne intention.
C'est prenant ce que tu dis, parce que j'avais jamais pris conscience de cette hiérarchisation des délits que l'on peut faire personnellement. Et finalement, c'est peut-être un côté facile aussi de faire celui qui n'a pas vu, de...
Mais c'est facile, mais c'est pareil pour le dopage. Le dopage, c'est le licite et l'illicite. Et chacun va se faire son légitime et son illégitime. Et ça, je prends souvent cet exemple, et régulièrement, je le prends. Je veux dire, moi, combien de fois il m'est arrivé de rouler peut-être à 110 sur la rocade alors que c'est limité à 90, parce que moi, il était beaucoup plus important de récupérer mon fils à l'heure, à l'école, peur qu'il se fasse écraser devant, plutôt que respecter les 90 km/h sur la route. Moi, le premier, je me suis créé mon légitime. Je me suis dit, voilà, je sais que c'est interdit, mais c'est quand même plus important que je récupère mon fils à l'école à l'heure. Et bien, le dopage, c'est la même chose. Et là, c'est exactement la même chose. En fonction du vécu que l'on a, en fonction des objectifs que l'on a, en fonction de l'éducation que l'on a, en fonction des facilités ou pas financières que l'on peut avoir, plein de choses comme ça. On va se dire, est-ce que moi, j'ai le droit de me permettre de dépasser la loi? Est-ce que moi, parce que j'ai pas à bouffer dans la rue, j'ai pas d'habitation, j'ai le droit de voler? C'est exactement la même chose. Comment aujourd'hui on peut accompagner ces personnes de se dire, voilà. Et ça, on ne l'enlèvera pas que tout le monde se crée son légitime. Mais le but, c'est revenir sur du vivre ensemble, du respect, de dire, d'accord, tu peux peut-être te dépasser ton légitime, mais moi, quand j'ai roulé à 110, est-ce que j'ai pas mis des gens en danger à côté? Si j'avais tué 3 personnes parce que j'ai roulé à 110, est-ce que finalement le plus important pour moi, c'était récupérer mon fils à l'heure et tuer 3 personnes, ou c'est ne pas tuer 3 personnes et récupérer 5 minutes de retard? Tout ça, on n'y réfléchit pas assez souvent la plupart du temps. Du moins, ça, on réfléchit pas à la bonne idée.
Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qu'on est dans l'instant présent et le plaisir instantané, et on réfléchit peut-être un peu moins à long terme.
Et c'est la place justement du mensonge parfois que l'on peut soigner. Donc, je parle tout à l'heure de diversification d'activité, je parle souvent aussi de la place du mensonge auprès des jeunes. Je leur dis, vous savez, un secret, vous pourrez en avoir. Mais surtout, le secret, si c'est un secret, il vous faut l'avoir que pour vous. À partir du moment où quelqu'un a un secret sur vous, vous êtes prisonnier, la liberté, c'est terminé. Et ça, je pense que c'est important. Ce qui veut dire quoi, finalement? Mais quand tu fais quelque chose, eh bien, on l'a souvent dit quand j'étais jeune, tourne ta langue 8 fois dans la bouche avant de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Et c'est exactement ça. Quand je fais quelque chose, est-ce que je suis capable de l'assumer derrière? Est-ce que je suis capable d'assumer des conséquences? Est-ce que je suis capable de l'assumer ouvertement, que les gens sachent ce que j'ai fait, etc., etc. Ça, c'est important. Parce que faire des choses dans l'idée de se dire, ouais, personne ne le saura, ben, là, déjà, c'est mort. C'est mort. Parce que déjà, tu te crées une prison autour de toi. Parce qu'il y aura des gens. Et pourquoi aujourd'hui, dans le milieu du cyclisme, dans le milieu du rugby, dans tous ces milieux-là, personne ne dit rien, tout le monde se tait? Parce que personne n'est 100% en accord avec soi-même. Clairement. Et que plein de d'autres connaissent des secrets sur les uns et les autres. C'est ça le problème. Pourquoi aujourd'hui, en cyclisme, personne ne dit rien? Pourquoi aujourd'hui, on a des consultants télé, etc., ils sont bien placés? Parce que s'ils sont mal placés, ils peuvent dire des choses sur les autres, etc., et tout le monde se tient. Et donc, du coup, c'est ça être libre? Pour moi, c'est pas ça. Moi, quand je parle, j'ouvre, etc., je dis des choses, je le dis ouvertement, parce que je sais que finalement, eh ben, on n'a rien contre moi, on peut rien me dire, on peut rien me critiquer. Et aujourd'hui, dans la politique, c'est exactement la même chose. T'as l'impression que quelqu'un s'investit, qu'est-ce qui se passe? La réaction derrière, c'est quoi? On va chercher des choses pour le démonter. On va aller chercher dans tous ses secrets pour décrédibiliser ce qu'il dit, alors que finalement, c'est deux sujets totalement différents, mais on va aller l'attaquer. Donc, si vous voulez pas être attaqué, remuez 8 fois votre langue dans la bouche avant de faire quoi que ce soit, ou avant de dire quoi que ce soit, assumez tout ce que vous êtes, et vous verrez bien qu'on ne parlera, vous ne parlerez plus de dictature ou de prison ou quoi que ce soit, vous allez commencer à vous sentir libre.
C'est vraiment passionnant parce que on retrouve ça dans tous les milieux, et comme tu l'as dit, la politique, c'est exactement le même système. Et après, tu t'en viens presque à douter de tout le monde. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé. Tu as dit, j'ai pris des risques, je prends des risques, et ça rejoint ce que disait Gilles Bertrand. Il a sa femme Odile Baudry qui est aussi ouais. Investie dans le milieu du dopage, et qui me disait dans un épisode que sa femme avait déjà subi des menaces, des choses comme ça. Toi, tu es aussi dans ce cas de figure-là à avoir des... Enfin, comment tu vis ça? Parce que j'imagine que tu dois en avoir aussi, il n'y a pas de raison. Comment tu vis ça, toi, personnellement?
Il faut être convaincu par ce que tu fais, en fait. Il faut être convaincu que toi, tu le fais dans le bien, dans l'intérêt général. Ça, c'est important. Oui, j'ai déjà eu besoin d'avoir recours à la protection fonctionnelle, etc. Bon, ouais, bref, c'est le métier qui veut ça, mais c'est rare. On a beau dire, mais c'est quand même très, très rare. Pour moi, de mon côté, parce que Moi, je travaille beaucoup plus dans l'ombre plutôt que voilà, quand on veut, le travail d'investigateur en journalisme, c'est chaud, c'est beaucoup plus tendu, je pense, en termes de pression. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être convaincu qu'on travaille dans l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on va vers la bonne cause. Et que finalement, les gens dont on va parler, les gens qu'on va essayer de faire tomber, sont dans le faux, sont dans le délit, dans le mensonge. Et ça, si on veut être capable de le faire, il faut être, comme je disais tout à l'heure, bien avec soi-même. Il faut être inattaquable, en fait. Ça, c'est important. Et c'est là qui va t'apporter cette force de pouvoir le faire. De te dire, t'as raison. Mais après, indirectement, je pense que l'éducation, il fait beaucoup. Moi, j'avais un grand-père qui était anti-franquiste. Et j'ai grandi là-dedans. C'était mon premier supporter, mon grand-père. Et peut-être, ça te bat de vouloir toujours défendre des idées, de vouloir se battre, d'avoir voulu se battre contre des idées. M'ont peut-être apporté cette éducation. Mais on n'est peut-être pas tous faits comme ça. Et surtout, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu de recul, parce que des fois, j'ai tendance à m'emballer quand je parle. Il faut surtout pas voir à moi une idée d'être moralisateur dans ce qu'il faut être. Je dis juste que ce que parfois, lorsque j'ai un message à mener, je dis juste que on part pas tous du même niveau. On part pas tous de la même éducation, parce qu'on n'a pas tous grandi de la même manière. Mais on peut tous changer des choses chez nous. On peut tous changer des choses. Et ce que je veux dire, et l'important, si on veut changer des choses et aller trouver des solutions, il faut déjà avoir confiance en soi. Et pour pouvoir gagner en estime, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer à l'action. Et ce que j'arrête pas de dire, c'est que de râler, de revendiquer, ce n'est pas passer à l'action. C'est peut-être une sorte de manière, mais c'est une manière de passer à l'action en groupe, en se sentant dans une appartenance. Comment nous, on peut agir personnellement, passer à l'action individuellement, sur soi? Et indirectement, si on veut passer à l'action sur soi, eh bien, c'est du travail. Il faut sortir de son confort. Combien, moi, j'ai de gens qui arrivent le boulot le lundi, je les vois, je dis, salut, ça va? Ouais, comme un lundi. Vivement vendredi. Et ces gens, t'as envie de leur dire, mais t'as rien envie de changer dans ta vie? Tu vas rester comme ça pendant 30 ans? Eh bien, oui. Et ces gens, ils vont rester comme ça. Parce qu'ils vont râler, mais ils vont rien faire pour que ça change. Eh bien, ça, on est tous capables de le faire. On aura tous peut-être plus de travail chez les uns que chez les autres, mais on est tous capables de le faire. Et c'est ça, indirectement. Et à partir du moment où on a cette capacité d'être à l'action, eh bien, on va foncer, on va avancer parce qu'on a des convictions. Et on va se sentir peut-être parfois trop fort, plus fort que ce que l'on est peut-être. Mais dans tous les cas, on va y aller. Et on va partir de l'idée que finalement, la pire des douleurs, c'est pas l'échec, en fait. La pire des douleurs, c'est le risque, c'est le regret. C'est-à-dire que je le dis souvent, hein, je veux dire, l'autre jour, j'intervenais auprès des jeunes, on était à l'INSEP. Et jeunes, je leur disais, c'était le jeu des jeunes. J'avais plein de collégiens, il y avait eu 600 collégiens qui étaient là. Et je les ai eus par groupe de 50-60. Je leur dis, vous savez, vous êtes ici à l'INSEP. Ici, vous avez des grands champions. Et vous savez, aujourd'hui, ces gens, ils sont là peut-être pour préparer leur objectif qui est dans 4 ans. Et leur objectif, c'est peut-être être médaille olympique ou faire un podium. Et peut-être que dans 4 ans, ils seront que 4e. Et bien, ça va leur faire mal. Parce que pendant 4 ans, ils auront bossé comme des fous pour être médaillés. Et ils vont avoir vraiment les boules. Mais la pire des douleurs ne sera pas celle-là. La pire des douleurs, c'est s'ils sont 4e et qu'ils savent qu'un mois avant, ou un mois et demi avant, ils ont peut-être pas assez bu, ils ont déclenché une tendinite. Ils ont peut-être fait sauter 3 séances d'entraînement parce que dehors, il faisait froid. Ils ont peut-être fait 2-3 soirées avec des copains, ils ont craqué au bout de 3 ans et demi parce que voilà, il fallait qu'ils décompressent. Et là, je dis pas qu'ils seront 4e parce qu'ils ont fait certaines déviances, mais juste dans leur tête, eux, ils vont se dire, purée, si j'avais été à peine un peu plus sérieux ces 2 derniers mois, est-ce que j'aurais pas eu ma médaille? Parce que cette médaille, cette occasion d'avoir la médaille, elle ne repassera pas. Et toute sa vie, il va peut-être se mettre dans la tête, purée, si j'avais su. Et c'est ça la pire des douleurs. La pire des douleurs, c'est le regret. C'est pas le fait d'échouer. C'est le regret.
C'est souvent ce qu'on dit quand tu es sur ton lit de mort. Est-ce que qu'est-ce que tu aurais changé dans ta vie? Est-ce que tu auras des regrets? Est-ce que tu il y a souvent cette image de regarder en fait sa vie. Personnellement, c'est une question que j'ai posée à mon père quand il était à 15 jours de décédé. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans ta vie? Et pour moi, c'était important de savoir ça. C'est ultra nécessaire en fait de se dire et en plus quand on rentre dans cet engrenage à se dire ma situation n'est pas bien, faut que je la change, elle me convient pas, faut que j'actionne des leviers pour changer dessus, et puis en fait on se rend compte qu'on fait des choses dont on se sentait même peut-être pas capable de faire il y a quelques années, et puis quand on se retourne on se dit tiens, je suis en train de faire ça. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, mais faut réussir à y aller, quoi.
Il faut réussir à y aller. Et c'est là, et je pense que, voilà, et comme tu le dis, ça va être plus ou moins dur pour différentes personnes, mais à partir du moment où on se retrouve dans ce cercle vertueux, où on voit qu'on est capable d'agir sur les choses, plutôt que demander des solutions, c'est là qu'on rentre vraiment dans les situations où l'action va alimenter l'estime de soi, et c'est à partir d'un certain niveau où là tu vas te dire, waouh, je suis dans l'action. Et c'est là que tu passes sur la bienveillance, l'altruisme, et que tu vas pouvoir aller aider les autres et agir dans l'intérêt général, en fait. Et ça, c'est super important. Mais pour cela, peut-être qu'il y a une éducation à modifier. Il faut peut-être respecter le rythme de chaque enfant. Il faut peut-être apporter plus de participation aux jeunes. Il faut peut-être, je ne sais pas, on n'a pas des solutions précises. Mais en tous les cas, moi, je sais que sur le plan sportif, quand j'interviens auprès des jeunes, il y a plein de choses que l'on peut influencer sur le fait, est-ce que c'est une fatalité que d'être chanceux ou malchanceux? Là, c'est pareil, ça a été démontré. Je veux dire, on devient chanceux ou malchanceux. On n'arrive pas au monde de chanceux ou malchanceux. On devient chanceux quand on devient déjà, on attire des opportunités, quand on est capable de les saisir et quand on est capable de les transformer en chance. Mais pour cela, il faut un savoir-être, il faut une attitude. Il faut l'attitude qui fait que tu vas attirer des opportunités. Et nous, les premiers, quand on croise une personne dans la rue, il y a des gens vers qui on a envie d'aller, des gens qui te poussent à traverser le trottoir, à traverser la rue, à aller sur le trottoir opposé. Ça, c'est la chose. Toi, tu n'attireras pas les opportunités. Après, quand t'es pas, est-ce que je suis capable de les saisir? Est-ce que je suis capable de les voir? Est-ce que je suis ouvert aux autres? Est-ce que j'observe autour de moi? Ou est-ce que je suis fermé sur moi, sur mes problèmes? Et ensuite, eh ben voilà, parce qu'on n'a pas peur de l'échec, on va faire tout ce qu'on est capable de faire pour atteindre l'objectif. Et c'est comme ça qu'on va provoquer la chance, plutôt que tomber dans la malchance. c'est on va tout faire, on va tout tenter pour voir ce que ça vaut. Et si au bout de 6 mois, 1 an, eh ben, ça vaut pas le coup, j'ai fait ce qu'il fallait et finalement ça marche pas, eh ben, au moins j'aurais pas le regret de pas avoir essayé.
Et alors, j'aimerais qu'on passe sur le sujet du dopage sur le trail, parce que le trail, c'est un sport qui est en plein essor, en plein boom, qui a cette connotation de connexion avec la nature, donc rester le plus naturel possible. Il y a encore très peu, même si ça commence à arriver, d'argent dans ce milieu-là. Quand on voit les prix que gagnent les grands champions sur les plus grandes courses, c'est risible. Et pour autant, moi, je veux pas me dire que ça n'existe pas parce que j'en sais rien en fait. Alors sans accuser personne, mais voilà. Comment est-ce qu'on fait pour quand tu as un sport comme ça qui est en plein développement, pour éviter, tu vois, par exemple ma petite action avec mon média qui est le podcast, comment est-ce qu'on fait pour éviter que cette pratique se développe? Est-ce qu'il y a des... Enfin, je sais pas en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais...
En fait, c'est qu'est-ce qu'on recherche déjà à travers l'activité. Il y a plusieurs aspects. Je pense qu'il faut déjà parfois recentrer le plaisir sur la pratique plutôt que ce que vous apporte la pratique. Quand je dis pratique, c'est bien évidemment ce que tu peux ressentir pendant que tu pratiques et ce que tu peux ressentir toi en termes d'activité, de ressenti juste après l'avoir terminé. C'est tout ce la délivrance d'endorphines, etc., tout le côté plaisir que tu as à pratiquer. Il faut le différencier de tout le, comme tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Aujourd'hui, déjà, on a des gens qui sont félicités sur les réseaux sociaux parce qu'ils s'inscrivent à une course. Quand ils réfléchissent, c'est quand même grave. C'est-à-dire que des gens, parce qu'ils vont s'inscrire à l'UTMB, ou vont s'inscrire à la Diagonale des Vous, on les félicite. Bon, là déjà, ça me pose des questions quand même. C'est-à-dire que déjà, on part dans l'idée que la personne va le faire. Que la
personne va le faire. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai.
Et donc, tu dis, ça veut dire qu'on part dans l'idée que la personne va le faire et que c'est déjà un exploit de s'inscrire. Bon, c'est juste que tu fais un chèque relativement important parfois. Et bon, hormis le fait qu'il ait fallu au préalable faire des compétitions pour pouvoir te sélectionner. Mais ça, c'est les réseaux sociaux. Comment aujourd'hui, t'as des sportifs qui vont gagner beaucoup plus parce qu'ils sont influenceurs sur les réseaux sociaux que les autres qui sont peut-être les meilleurs mondiaux aujourd'hui. Donc ça, on est vraiment dans ces fameuses motivations dont on parlait tout à l'heure. Ça, clairement, ça va pousser au dopage. Pourquoi? Parce que finalement, l'objectif premier, ça va être quoi? Ça va être de gagner des courses ou les terminer si tu n'en es pas capable pour pouvoir exister sur les réseaux sociaux. Clairement, ça favorise. Donc, pour revenir à la question dont tu parlais, pour moi, personnellement, je pense qu'il y a du dopage dans le trail. Alors, quand je dis trail, hein, je mets skyrunning, course de montagne, je mets toutes les épreuves qui vont avec. Et je pense qu'il y a beaucoup de conduite dopante. Clairement, je le dis ouvertement. De toute façon, les analyses nous le démontrent. Les différentes études qu'ils ont pu faire sur le TMB ou d'autres courses le démontrent clairement. De nombreux sportifs sur ces courses-là utilisent des substances, qu'elles soient interdites ou pas interdites, mais dans tous les cas, des substances détournées de leur usage pour faire du trail et faire des compétitions. Et là, la chose sur laquelle on doit travailler avant tout auprès des jeunes, c'est sur la place que doit avoir la fatigue et la récupération. Aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent les jeunes, et c'est vraiment ce qu'il faut. Et moi, j'arrête pas d'insister, moi, puisque bon, justement aujourd'hui, donc je suis accompagnateur en moyenne montagne, je mets en place des stages de trail, etc. Et justement sur le développement personnel et également éduquer, essayer d'amener les gens vers le sport au service d'un bonheur durable, c'est-à-dire pas juste éphémère comme ça sur un réseau social, etc. Et souvent, moi, je prends le temps souvent d'échanger sur ce qu'est la récupération et la fatigue, et de faire comprendre aux gens que vous récupérez quand vous êtes dans votre canapé, vous récupérez quand vous êtes en train de vous reposer, vous progressez quand vous êtes dans votre canapé, vous progressez quand vous êtes en train de récupérer. Votre corps, c'est pas compliqué. Si tu le fais une séance excentrique en descente, pourquoi faire? Tu le fais. Tu le fais parce que tu sais que pendant 3 semaines derrière, il va reconstruire des fibres. Donc, tu vas pas casser des fibres sur une séance, mais à la fin de ta séance, t'as pas progressé. C'est pendant les 3 semaines qui vont suivre que tu vas progresser. Mais si par contre, pendant ces 3 semaines, tu te dis, Ah ouais, mais moi j'ai envie, il faut, si je veux être progressé, je veux faire une séance d'excentrique dans une semaine, tu vas faire quoi? Tu vas prendre des chances pour récupérer plus vite. Ah ouais, mais ça c'est éphémère en fait. Parce que tu vas enlever de la douleur. Et tu vas rattaquer une deuxième séance alors que ton corps, lui, finalement, il sera trompé. Ou du moins ta tête sera trompée alors que ton corps sera encore fatigué. Et là, dans ce cas-là, tu vas rattaquer. Et là, finalement, grâce, parce que tu vas utiliser des conduits dopantes, tu vas enlever les bénéfices de ton entraînement à long terme. C'est ça le problème. Respectons la récupération. Et si des gens parfois prennent des substances, et dans le trail c'est le cas, prennent des substances, des, voilà, ça peut être des antidouleurs, ça peut être des anti-inflammatoires, etc., pour enchaîner des courses, ils vont droit dans le mur. Ils vont droit dans le mur. Parce qu'arrivé un moment, d'une part, les produits font plus effet, et d'autre part, le corps, il dira stop. Il dira stop. Et si ces gens, ils veulent continuer à pouvoir pratiquer ce qu'ils aiment à 50, 60 ans, mais il faut pas faire ça, en fait. C'est tout. La question, elle est là. Il suffit de s'écouter. Le corps, il est pas fou. Il te donne des alertes. Il te donne des signaux. Il te donne des signaux. Donc, à partir du moment où tu caches ces signaux, tu vas droit dans le mur. Et là encore, attention, hein. Là, je parle juste de la prise de substances pour essayer d'être tout le temps à 100%. C'est-à-dire que le mec qui fait une compète, il a envie d'être 100% une semaine après ou 15 jours après. Eh bien, il va prendre ce qu'il faut pour le faire. Et ensuite, il y a le deuxième cas, il y a ceux qui veulent fonctionner à 120% plutôt qu'à 100%. Et donc, et là aussi, il y a un problème. Il y a un problème d'une part éthique. Je vois pas déjà, si les personnes sont dans une glace, se disent, ben ouais, finalement, j'ai des performances qui me correspondent pas. Et d'autre part, sur le plan de la santé. On prend l'exemple des boissons énergisantes qu'on appelle Red Bull, Monster, Dark Dog, etc. Toutes ces boissons qui vous font fonctionner à 120%, qui te font monter les pulsations, etc. Il y a un réel danger. On sait aujourd'hui que ces boissons énergisantes associées à un effort font que tu as des problèmes de rythme cardiaque et de pulsations qui peuvent monter très hautes et te poser réellement des problèmes. Donc, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir, mais comment je gère mon entraînement et comprendre l'entraînement. Donc, c'est toute une éducation et un encadrement à avoir là-dessus. Et en parallèle, bien sûr, éviter de favoriser et de mettre des gemmes et des jadors à des gens qui font que juste s'inscrire et qui finalement se mettent une pression parce que les gens qui ont mis adore sur inscription, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens? Eh bien, ils vont attendre le résultat sur la compétition. Et la personne qui aura partagé qui s'inscrivait va avoir l'impression que tout le monde le regarde et que tout le monde attend son résultat. Et que finalement, peut-être, il va prendre une substance, pas simplement pour lui se satisfaire, mais pour ne pas décevoir les gens qui l'attendent sur les réseaux sociaux.
C'est passionnant. Et je pense que ça fait du bien de l'entendre. Et je m'exclus pas, hein, de ces gens qui ont besoin de l'entendre, loin de là, parce que je me reconnais dans ce que tu dis, dans cette addiction au like et puis ce bonheur éphémère de regarder le nombre de réactions sur une publication. Donc, comme tu l'as dit, hein, l'idée, c'est de pas paraître moralisateur et aussi de grandir soi-même et de regarder en fait en face de ce qu'on a à modifier pour finalement être plus heureux. C'est ça l'objectif.
Voilà, c'est surtout comme ça qu'il faut le voir. Et moi, je suis pas du tout là pour assainir un sport ou quoi que ce soit. C'est que moi, ce qui m'interpelle, c'est que les gens, quand ils me voient, ils me disent, mais putain, mais même au boulot, partout, toi, t'es toujours content, de toute façon. T'es toujours, mais ouais, mais c'est pas parce que je suis né comme ça. C'est en fonction de comment vous allez aborder les choses, en fonction de comment tu vas les vivre, en fonction de tu vas dans l'action, en fonction de... Et moi, c'est celui-là, finalement. C'est pas avoir des gens qui viennent le matin, tristes, le lundi, vieux vendredi, qui sont toujours à râler de décisions qui sont prises. Je veux dire, j'ai envie d'aider ces gens, mais il faut qu'ils prennent conscience que c'est sûr, on n'a pas tous le même travail à faire sur soi, mais on peut tous le faire. On peut tous le faire à notre simple niveau. Voilà.
Eh ben, écoute, je trouve que c'est un beau message et on arrive déjà à presque une heure d'enregistrement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter peut-être pour clôturer notre échange?
Mais en fait, ce sur quoi j'ai pas dit, et je pense que c'est important, même si je l'ai dit un peu au début, c'est qu'il faut croire vraiment dans les vertus de la montagne, en fait, et de la nature. Moi, je pense que quand tu pratiques seul dans une montagne, ou que tu participes en groupe, que tu partages des moments comme ça en pleine nature, t'es plus du tout dans cette société de compétition, dans cette société de comparaison, ou dans cette société où il faut battre les autres pour exister. Tu es dans un milieu où tu peux vivre le moment présent, tu peux te recentrer sur tes sensations, tu peux te recentrer sur les relations que tu as avec les autres, sur ces sentiments d'amitié, de rigolade, etc., qui font que tu te détaches totalement de tout le reste. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te dire « Waouh, mais c'est ça le bonheur peut-être. » Et que tu vas mettre en place des actions derrière pour pouvoir retrouver, rechercher le bonheur dans ces choses-là, plutôt que vouloir le gagner à tout prix ou vouloir exister à tout prix aux yeux des autres, en fait. Donc, je crois vraiment au contact à la nature. C'est pour ça que, d'ailleurs, de mon côté, je développe tous ces week-ends, etc. C'est pour pouvoir faire ressentir ces moments qui disent détacher de tout le reste. Les réseaux sociaux, on coupe, vous faites plaisir après si vous voulez, mais vivez l'instant présent, en fait.
Et de plus en plus, tu vois, je cours sans mon téléphone. Ça paraît rien hein, aujourd'hui, mais même si ça peut avoir un aspect sécuritaire pour de multiples raisons, surtout quand on part en montagne, mais bon, chez moi, ça va.
Ouais, mais voilà, mais il faut... Ouais, mais il faut, voilà, mais il faut s'en couper, l'éteindre, et puis je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de photos, mais c'est vrai que c'est le fait de vouloir trop partager fait qu'on ne le vit pas, souvent. Et ça, c'est vrai. Et il faut revenir à ça, je pense.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Christophe, pour cette heure d'échange. C'était vraiment passionnant.
Merci à toi.
Avec plaisir. Et puis, j'espère que vous tous qui avez écouté cet épisode, vous l'avez plu. S'il vous a parlé, c'est qu'il y a peut-être une raison. et puis, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui saurait entendre tout ce qu'on vient de dire. Voilà, parce qu'il y a écouter et il y a entendre. Très bonne journée, Christophe, à bientôt.
Allez, merci, bonne journée.
Bye bye. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.